VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
13h à Conakry, 15h à Kigali, bienvenue à notre journal. Angola, le nouveau président angolais João Lourenço a prêté serment ce mardi lors d'une cérémonie d'investiture sur la place de la République à Luanda, la capitale, en présence de son prédécesseur à la tête de l'État, José Eduardo dos Santos, et de plusieurs leaders étrangers, dont le président rwandais Paul Kagame et son homologue équato-guinéen Teodoro Obiang Nguema, doyen politique des chefs d'État africains. L'arrivée au pouvoir de João Lourenço, 63 ans, un ancien ministre de la Défense, marque la fin du règne sans partage de 38 ans de José Eduardo dos Santos, qui se retire après la victoire sans appel aux législatives du 23 août de son parti, le MPLA, au pouvoir depuis l'indépendance de l'Angola en 1975. Rwanda, l'opposante rwandaise Diane Rwigara, qui avait tenté de se présenter à la récente présidentielle rwandaise face au chef de l'État Paul Kagame, a été interrogée lundi par la police, tout comme sa mère et sa sœur, suite à leur arrestation samedi. Madame Rwigara ainsi que sa mère et sa sœur avaient déjà été interpellées début septembre avant d'être relâchées après une semaine d'interrogatoire, selon sa famille. Elles étaient alors entendues pour des faits présumés d'évasion fiscale, tandis que Diane Rwigara était également soupçonnée de contrefaçon de documents dans le cadre de sa tentative de candidature à la présidentielle du mois d'août. La police rwandaise dispose de 5 jours à compter de leur arrestation pour les déférer au parquet en vue d'une éventuelle inculpation. En République centrafricaine, quelques 23 000 personnes ont fui Bokaranga et Niem, deux villes du nord-ouest du pays, proches du Cameroun, en raison des récentes violences sur place. C'est ce qu'annonce l'OCHA, le Bureau des Nations Unies pour les Affaires Humanitaires. La grande majorité des habitants de Bokaranga, 15 000, et ceux de Niem, 8 000, se sont réfugiés dans la brousse où ils ne peuvent avoir accès à l'assistance humanitaire, a souligné l'OCHA dans un communiqué de presse. Samedi dernier, des éléments du groupe armé 3R ont attaqué Bokaranga malgré la présence en ville de casques bleus de la MINUSCA, la mission de l'ONU en Centrafrique. Il ne fait aucun doute qu'il y a eu des victimes, a affirmé une source militaire à l'AFP sans donner de chiffres précis. Apparu fin 2015 dans le nord-ouest de la Centrafrique, le mouvement armé 3R dit protéger la communauté Peul contre les attaques des milices anti-Baraka. D'après l'OCHA, la ville de Niem, située également dans le nord-ouest, à une quarantaine de kilomètres de Bouar, a également été prise par un groupe armé. Le Soudan, retiré de la liste des pays visés par le décret migratoire du président américain Donald Trump, s'est engagé lundi à redoubler d'efforts pour normaliser ses relations avec les États-Unis. Washington doit décider le 12 octobre s'il faut ou non lever complètement les sanctions prises contre Khartoum en 1997. Mohamed Nagui, rédacteur en chef de Soudan Tribune à Paris, nous situe sur les futurs enjeux des relations entre les deux pays.
Le processus de normalisation, c'est justement pour amener Khartoum à produire des changements dans le pays. Par rapport au Darfour, au fait, ce n'est pas le principal volet de la chose, mais le principal volet, c'est d'amener Khartoum à adopter des changements vers un régime démocratique. Quand on parle régime démocratique, c'est-à-dire c'est plein d'autres choses. Le règlement de conflit du Darfour, l'administration américaine en veut autant des factions rebelles qui refusent de signer des accords de paix qu'au gouvernement soudanais, c'est-à-dire toutes les parties au conflit sont récalcitrantes. Washington est en train de mettre la pression sur les deux parties. C'est vrai, ça fait partie du processus de démocratisation, de normalisation, c'est-à-dire aussi de l'autre côté des relations entre les deux pays. Mais ce n'est pas seulement le Darfour. Il y a aussi un autre conflit, il y a aussi les questions des libertés religieuses, il y a les questions de la liberté d'expression, etc., etc.
Mohamed Nagui, rédacteur en chef de Soudan Tribune à Paris. Corne de l'Afrique, les violents affrontements liés à un différent territorial en Éthiopie entre les Oromo et les Somalis, deux des principaux groupes ethniques du pays, ont fait des centaines de morts et des milliers de déplacés depuis début septembre. C'est ce qu'annonce le gouvernement éthiopien. Des affrontements ont opposé des membres des deux groupes le long de la longue frontière entre leurs régions respectives dans l'est et le sud-est du pays. Le président de la région Oromo, Lema Megersa, avait déclaré à la mi-septembre que les violences avaient donné lieu à des tueries brutales et poussé 50 000 personnes à fuir la zone des hostilités.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Côte d'Ivoire, plus de 100 000 victimes ivoiriennes du déversement des déchets toxiques par le cargo Probokwala à Abidjan en 2006, tenteront à nouveau ce mercredi de convaincre la justice néerlandaise de juger la société affréteuse Trafigura et de l'obliger à verser des indemnités. Le juge de la cour d'Amsterdam devra décider si la plainte de nos clients est recevable et si la justice néerlandaise est compétente pour juger la responsabilité de Trafigura dans la catastrophe du Probokwala, a déclaré Bojan Dekker à l'avocat des victimes. Le déversement des déchets hautement toxiques du Probokwala en août 2006 à Abidjan, en Côte d'Ivoire, après qu'Amsterdam eut refusé au cargo immatriculé au Panama de décharger sa cargaison, avait causé la mort de 17 personnes et des dizaines de milliers d'intoxications, selon la justice ivoirienne. En Guinée, la Commission électorale indépendante guinéenne a proposé lundi de fixer au 4 février 2018 la tenue d'élections locales, une date approuvée par l'opposition qui réclame la tenue de ce scrutin qui n'a plus été organisé depuis 2005 et a été repoussé à de nombreuses reprises. Les élections à cet échelon aurait dû se tenir en février en vertu d'un accord conclu en octobre 2016 dans le cadre du dialogue politique national entre le pouvoir guinéen, l'opposition, la société civile et les partenaires internationaux de la Guinée. Mais depuis lors, les discussions sur le calendrier piétinaient. On reste en Afrique de l'Ouest, au Nigeria, 60 membres présumés d'un mouvement réclamant l'indépendance du Biafra dans le sud-est du pays ont comparu hier devant un tribunal. La justice a décidé de les maintenir en détention provisoire. Yakuba Ouedraogo.
Les inculpés, tous désignés comme membres du mouvement indépendantiste pour les peuples indigènes du Biafra, IPOB, sont accusés de nombreuses infractions, dont tentatives de meurtre et actes de terrorisme. Selon le porte-parole de la police de l'État d'Abia, Geoffrey Ogbana, l'affaire a été ajournée au 25 octobre. 7 autres personnes ont également comparu pour les mêmes chefs d'inculpation la semaine dernière à Abia. Les tensions vont croissant dans la région depuis l'arrestation en octobre 2015 du leader du groupe Nnamdi Kanu, détenu jusqu'à sa libération sous caution en avril dernier. Son procès pour trahison et atteinte à la sécurité de l'État va débuter à Abuja en octobre. Le 15 septembre, le gouvernement nigérien a officiellement classé le mouvement indépendantiste comme organisation terroriste. Abuja accuse ce groupe d'attiser des tensions en faisant courir de fausses informations sur un prétendu génocide contre les Igbo.
Actualité hors d'Afrique maintenant, au Moyen-Orient, le vote massif des Kurdes irakiens en faveur de l'indépendance suscite un tollé dans la région, notamment en Irak, en Syrie et en Turquie. Les précisions de Michel Joseph.
Les résultats du référendum sont attendus mardi soir, mais il est clair que les Kurdes irakiens, dans leur écrasante majorité, se sont prononcés en faveur de l'indépendance. Le Parlement irakien, réuni lundi à Bagdad, en l'absence des élus kurdes, a appelé au déploiement de l'armée dans les zones dont le gouvernement national et la région autonome du Kurdistan se disputent le contrôle. La Turquie et la Syrie, qui ont leur propre minorité kurde, ont dénoncé le référendum. Ankara compte fermer sa frontière terrestre avec cette région et menace par ailleurs de bloquer les exportations de pétrole du Kurdistan irakien à travers son territoire.
Bras de fer, États-Unis, Corée du Nord. Le président américain Donald Trump n'a pas déclaré la guerre à la Corée du Nord. La Maison-Blanche a tenu à clarifier par ses termes la position des États-Unis suite à une menace de Pyongyang d'abattre tout avion américain violant son espace aérien. Gabi Dorsil.
L'escalade verbale continue entre Donald Trump et le régime nord-coréen. Cette fois, le chef de la diplomatie de Kim Jong-un, Ri Yong-ho, a affirmé que son pays a fait l'objet d'une déclaration de guerre des États-Unis, ce que la porte-parole de la Maison-Blanche, Sarah Huckabee Sanders, a catégoriquement démenti lundi dans un point de presse. Cela fait suite aux propos tenus la semaine dernière à l'Assemblée générale de l'ONU par le président Trump et à une démonstration de force le week-end écoulé de l'aviation militaire américaine qui a fait voler des bombardiers stratégiques près des côtes de la République populaire et démocratique de Corée. Insultes et menaces réciproques se multiplient depuis quelques jours entre les deux gouvernements. Le Pentagone prépare les options militaires pour le président Trump au cas où Pyongyang n'arrêterait pas ses provocations, selon le porte-parole du département américain de la défense, le colonel Robert Manning.
Et pour terminer, la tragédie des Rohingyas en Birmanie, le Conseil de sécurité de l'ONU se réunira jeudi pour discuter des violences en Birmanie et de la crise liée au sort de la minorité musulmane Rohingyas. Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com.
Soyez au cœur de l'info sur VO.